48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau mag sur 48 FM, le 78e exactement, avec toujours deux sujets qui n'ont aucun rapport mais qui sont des sujets d'actualité. On va commencer par un Tour de France. Alors on sait que le Tour de France va arriver à Mende l'été prochain, le 19 juillet, mais là c'est pas le même Tour de France. Bonjour Nico qui est avec moi aujourd'hui.
Bonjour Ludo, bonjour tout le monde.
On va parler du Tour de France du télétravail avec la Maison de l'Emploi et Lozère Développement. Avec nous aujourd'hui Vincent Gattin de Lozère Développement, bonjour.
Bonjour.
Et Adeline Vitrolles de la Maison de l'Emploi.
Bonjour. C'est
qu'on commence toujours par les dames.
On commence toujours par les dames, ou on garde le meilleur pour la fin et on finit par elles.
Ah oui, aussi, c'est vrai.
Et comme on garde le meilleur pour la fin...
Merci. Oh, le meilleur, je ne sais pas. Mais...
Il est là, on va parler de l'actualité du Rude Boy Crew avec la balade du Dandy Manchot qui aura lieu ce week-end. Alors ça a pris une longue résidence d'artiste, on va enfin retrouver ce spectacle dans le cadre des Journées du Patrimoine. Bonjour Sébastien Kuhn.
Bonjour Ludovic Terol, bonjour Nicolas Trottoin.
Nicolas Trottoin qui peut répondre bonjour aussi.
Bonjour Sébastien Kuhn.
Allez, on va commencer par parler de ce Tour de France du télétravail qui est donc organisé par la Maison de l'Emploi de la Lozère et également par Lozère Développement. Alors il n'y a qu'une étape rurale en France, eh bien, ce sera à Mende le 9 octobre. Lozère Développement, vous nous rappelez un peu le principe de Lozère Développement, qu'est-ce que c'est ?
Alors Lozère Développement, c'est l'agence de développement économique de la Lozère. Elle a pour objectif de mettre en avant l'économie lozérienne et puis aussi de faire pas mal d'actions de prospection et d'attirer finalement des actifs, d'attirer de l'économie sur le territoire. Et
donc, des entreprises.
Voilà, des entreprises. Et donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire à travers plusieurs actions, dont un partenariat avec la Maison de l'Emploi autour de Solozère.
La Maison de l'Emploi également, vous pouvez nous définir un peu ce que c'est pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas.
C'est la maison où on trouve de l'emploi.
Voilà,
eh bien non, pas forcément. La Maison de l'Emploi, c'est 9 plateformes sur le territoire de la Lozère qui sont des relais de services publics. Donc en fait, c'est des espaces sur lesquels les usagers peuvent se rendre pour être accompagnés sur leurs démarches administratives et de l'accompagnement sur tout ce qui concerne nos partenaires services publics. Mais dans la thématique de Solozère, les espaces de ces plateformes sont aussi des espaces de télétravail, des télécentres ou des comptoirs numériques. Donc c'est des espaces d'accueil pour les télétravailleurs de notre territoire, alors, d'où notre partenariat avec Lozère Développement.
Voilà, alors Solozère, expliquez-nous, parce qu'en fait c'est l'union en fait, de deux structures, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Solozère a été lancé en 2011 et donc c'est en effet suite à un partenariat, une convention de partenariat entre Lozère Développement et la Maison de l'Emploi sur ces thématiques autour du télétravail. Et du coup, Solozère, c'est le réseau, c'est la marque du réseau de télétravail en Lozère. C'est un réseau d'espace, c'est une communauté et c'est des ateliers d'animation et de formation pour les télétravailleurs du territoire.
Alors quand vous dites une communauté, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui encadrent ça, qui animent ça, ce sont des gens qui viennent bénéficier d'un service. C'est quoi exactement ?
Tout à fait. Donc là, ce qu'on appelle la communauté, c'est la communauté des télétravailleurs, c'est-à-dire soit des indépendants qui télétravaillent, soit des télétravailleurs salariés. Et du coup, cette communauté est animée après par des professionnels, et en l'occurrence par Vincent et moi-même, et où du coup, on anime des ateliers autour de questions qui concernent le télétravail, alors soit des questions juridiques, soit des questions d'accompagnement,
Cette communauté est importante en Lozère, de télétravailleurs, il y en a beaucoup.
Alors d'identifier aujourd'hui, c'est aussi tout l'enjeu pour nous cette année-là, c'est de pouvoir les recenser. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a une cinquantaine, tu me dis si je me trompe Vincent, mais une cinquantaine de télétravailleurs recensés. Et l'idée, c'est aussi de faire un peu sortir du bois, entre guillemets, ceux qui sont à domicile et qui aujourd'hui ne se rendent pas sur nos espaces et qu'on a du mal à identifier et à accompagner du coup.
Voilà. Et pourquoi ils ne viennent pas sur vos espaces ? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin, c'est ça ?
Ça dépend, en fait. Il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où ils télétravaillent, c'est à domicile. Ils n'ont pas forcément connaissance de l'offre de services sur les télécentres, en l'occurrence, ou ils n'ont pas forcément connaissance de l'accompagnement que peut apporter la communauté de Solozère, en l'occurrence.
Il faut aussi dire que c'est des lieux qui sont assez récents. tout cas sous Lozère, c'est 2011, donc il faut le temps que ça se construise, que l'offre soit bien diffusée et que les gens qui sont justement indépendants ou télétravailleurs connaissent bien cette offre et puissent éventuellement se rendre vers les télécentres.
Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ces télécentres ?
Alors on trouve un lieu adapté à la profession, c'est-à-dire au télétravail, c'est-à-dire la base c'est quand même la connexion gratuite, un espace de coworking, donc de travail partagé. Du coup l'idée c'est aussi de pouvoir rompre l'isolement de certains télétravailleurs à domicile par la rencontre avec d'autres télétravailleurs, d'autres secteurs d'activité. Donc c'est aussi l'idée c'est de favoriser les échanges économiques et les échanges humains sur ces espaces. On trouve aussi des bureaux. Donc, dans la nécessité d'un bureau individuel, on a sur tous les télécentres la possibilité de louer un bureau. Il y a tout ce qui est services annexes, donc de reprographie. Et puis, le principal avantage de ces espaces-là, qui se trouvent donc majoritairement sur des maisons de l'emploi, c'est l'accompagnement et l'accueil des animateurs qui sont sur place.
Oui, c'est voilà. La plus-value.
Plus-value de ces espaces. Ce sont des espaces mutualisés. Donc, le télétravailleur peut aussi y venir pour d'autres démarches. Et il est en lien avec les animateurs de ces plateformes.
Est-ce que vous avez là, excuse-moi, Ludo. Est-ce que vous avez là, le sentiment que c'est en développement en France ou pour l'instant, ça stagne ? Enfin, si vous avez quelques chiffres à nous donner.
Là, en ce moment, on s'aperçoit quand même qu'il y a une grosse plus-value. Il y a de plus en plus de télétravailleurs. Il y a eu notamment pas mal d'actions avec des tiers-lieux, c'est-à-dire un nouveau concept qui est arrivé et qui a un peu bousculé le concept de télécentre. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des bureaux un petit peu partout sur tous les territoires il y avait voilà une idée d'offre d'équipement. Et depuis qu'en milieu urbain, il y a plusieurs associations, plusieurs mouvements qui ont développé justement des tiers-lieux avec la volonté de construire des lieux où les gens étaient en interaction, créer des communautés. Là, ça a touché son public. Et finalement, il y a une émergence en ce moment de tiers-lieux qui est assez extraordinaire à travers toute la France. Il y a 150 lieux qui ont plus ou moins émergé récemment. Et du coup, nous, en tout cas en Lozère, on essaie de s'appuyer sur cette dynamique-là et bien insister sur l'idée d'une communauté des télétravailleurs pour pouvoir justement attirer vers des équipements qui sont déjà présents des télétravailleurs, des indépendants, en leur disant, voilà... vous allez venir chez nous, vous allez avoir des bureaux, mais vous allez avoir surtout l'accompagnement, la mise en relation. Et c'est ces éléments-là qui font un petit peu l'effort
du territoire. Le télétravail en lui-même est une pratique qui se développe vraiment de plus en plus dans tous les territoires, et de plus en plus d'entreprises ou de collectivités.
On a des chiffres là-dessus, non ?
On est encore très en retard en France. On est, si je ne me trompe pas, autour des 13-15% d'entreprises qui le mettent en place. Dans d'autres pays comme les États-Unis, ils sont à plus de 40 ou 50% des entreprises qui ont, en tout cas, dans leur code ou dans leur contrat, la possibilité de télétravailler. Donc on est encore en retard, mais ça se développe énormément. De ce fait, les espaces se développent aussi beaucoup, parce qu'on s'est rendu compte que le travail à domicile n'était pas forcément une bonne alternative, justement. Et ce dont parle Vincent, les tiers-lieux, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on ne va pas, sur ces espaces-là, chercher uniquement une table et une connexion, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quasiment tout ça chez soi, ou presque. Donc c'est vraiment la plus-value de ces espaces. C'est l'échange, la communauté.
Parce que l'idée fondamentale du télétravail, c'était quand même faire en sorte que les gens ne passent pas des heures dans les bouchons pour aller dans un établissement où ils pouvaient faire ça de chez eux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en milieu rural, on s'est dit, tiens, on va reconcentrer dans des lieux qui sont des télécentres, des gens qui étaient déjà chez eux.
Alors, cette problématique...
Parce que c'est juste pour finir, c'est juste un concept, on va dire qu'on était, nous, dans le milieu rural et puis on recrée des pôles urbains. Alors que dans le milieu urbain, on a plutôt tendance à dire aux gens, restez chez vous, travaillez chez vous. Mmh. Qu'est-ce qui fait ça
en fait ? Alors, en effet, le télétravail en territoire rural ne répond pas aux mêmes problématiques que dans les villes. Dans les villes, en effet, on est sur la problématique de déplacement par rapport aux embouteillages. On est aussi sur la problématique immobilière, où les entreprises cherchent à réduire leurs coûts immobiliers, donc proposent, pour limiter le nombre de bureaux, etc., proposent à leurs salariés de travailler ailleurs. En territoire rural, la problématique, elle est plutôt celle de l'isolement et aussi du déplacement, parce qu'en l'occurrence, c'est pas pour les embouteillages, mais au jour d'aujourd'hui, une personne qui vit par exemple au Pont de Montvert, ça lui arrive de venir tous les jours à Mende parce qu'il travaille à Mende. Aujourd'hui, avec le télétravail, il peut se rendre sur la maison de l'emploi du Pont de Montvert ou de Florac, au télécentre, au comptoir, en proximité. D'accord. Et donc, du coup, le télétravail répond quand même à une problématique de mobilité, pas la même. Sur notre territoire rural, c'est plus une problématique d'éloignement et de problèmes de route. Mais on a quand même cette problématique-là qui se pose sur nos territoires.
Et pour rompre l'isolement, de recréer du lien social.
Le concept et l'idée principale de ces espaces-là, c'est de recréer du lien social et de créer et de dynamiser aussi le tissu économique. Ouais.
Il y a
aussi une volonté de créer du business, parce qu'il y a plusieurs indépendants qui s'installent en milieu rural, qui fonctionnent pendant 1 ou 2 ans, mais à partir du moment où on est dans ses locaux, chez soi, il est difficile de faire du réseau, on peut fonctionner avec des réseaux de freelance, on peut travailler avec pas mal de réseaux, mais de temps en temps, ça fait du bien d'arriver sur un lieu pour pouvoir faire des rencontres rencontrer d'autres télétravailleurs, d'autres indépendants, pour pouvoir potentiellement répondre ensemble et constituer ensemble des projets.
J'imagine que vous louez ces espaces aux télétravailleurs, ça revient cher, au lieu de travailler chez moi si je veux aller dans un centre de télétravail.
Il y a plusieurs types d'offres, ça ne coûte pas cher dans l'absolu. Venir sur un télécentre lausérien, donc soit une maison de l'emploi ou Pollen, ça va être gratuit si c'est simplement du coworking. C'est-à-dire que si vous venez dans un espace où il y a une chaise, il y a un partage de mobilier, etc., vous êtes dans un open space, là, c'est gratuit. Vous pouvez venir librement. Donc,
c'est vachement américanisé, votre truc. Hein. Ah, c'est coworking. Chili travail.
Oui, effectivement. Et donc, en tout cas, ce coworking, ce travail partagé sur des espaces, là, ça va être gratuit. Après, il y a des prestations qui vont être payantes pour des gens qui vont vouloir venir plus régulièrement. Donc, la location d'un bureau privé, etc. Ça va être autour de 10 euros par jour pour un bureau fermé. Oui,
ça reste quand même assez accessible.
Oui, ça va être assez accessible. Et ensuite, il va y avoir plein d'autres services qui vont potentiellement être payants, notamment la reprographie, l'ouverture de lignes de téléphone, etc.
Donc, si on résume, en fait, un partenariat avec des conventions qui vous lient. Les deux structures, Maison de l'emploi et Lozère Développement, et qui créent ces télécentres, alors des fois qui utilisent déjà vos locaux un peu partout sur les départements, parce qu'il y a combien de sites de télécentres?
Alors justement, on s'est appuyé sur le réseau des maisons de l'emploi qui était déjà existant et qui permet ce maillage, en fait. Donc c'est aujourd'hui 9 plateformes, donc c'est 9 espaces.
D'accord.
On a neuf espaces-là.
Il y a Marvejols, Saint-Chély,
Langogne, Villefort,
Le Pont de Montvert,
Villefort, Fournelles,
Florac.
Bédouès,
il en
manque un.
Merveilles,
il en manque un.
Émande,
oui, qu'on n'a pas cité.
Et ouais, c'est Pollen.
C'est Pollen, sûrement. C'est Pollen. Très bien.
Très bien, justement, pour promouvoir ce télétravail, il y a un Tour de France du télétravail. Donc, vous êtes partenaire de ce Tour de France, c'est pas vous qui l'avez initié?
Alors non, en fait, donc, ce Tour de France, c'est une initiative proposée par trois structures, LBMG Work Lab, The Village et OpenScope, donc qui proposent cet événement. Donc, c'est la deuxième édition, c'est leur deuxième Tour de France.
Ça, c'est au niveau national.
Au niveau national, d'accord. C'est un événement national, donc c'est un Tour de France qui d'habitude donc passe par plusieurs grandes villes, voire métropoles, donc à Paris.
Et qui dure combien de temps?
Alors en général, c'est un événement qui se passe sur entre 1 et 2 jours, 2-3 jours sur chaque lieu.
D'accord.
Donc ils font plusieurs villes et ça dure toute l'année en fait. Donc là on s'inscrit dans le Tour de France 2014. Donc ils sont déjà passés par exemple par Paris, Strasbourg, Saint-Étienne,
Bordeaux,
voilà.
Et ce sont des grosses villes.
Ce sont des grosses villes, voilà.
Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans?
Justement, en l'occurrence, sur ces événements-là, on a eu l'occasion de se rendre sur certains de ces événements avec Vincent. Le télétravail est envisagé autour de toutes les problématiques dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui concerne le milieu urbain. Et les espaces ne sont pas les mêmes, et les thématiques abordées, les réflexions non plus. Et du coup, l'idée, c'était de proposer une étape en milieu rural pour pouvoir parler du télétravail et des problématiques et des solutions que ça peut apporter sur nos territoires. Voilà, donc on replace la réflexion sur la ruralité. Et d'ailleurs, la thématique donc, de cette journée qui aura lieu le 9 octobre, c'est le numérique, enfin vecteur de développement rural. Donc là, on abordera toutes les questions en lien avec le télétravail, mais pas que aussi, donc tout ce qui est nouvelles pratiques professionnelles et ce que ça peut apporter au territoire et vice-versa.
Les trois structures dont vous avez parlé, The Village, LBMG, Work Lab et OpenScope.
The Village People, hein, c'est...
Non, c'est The Village. D'ailleurs, on en a déjà parlé pour la création d'écoles numériques ensemble dans les informations. Ce sont quoi exactement ces trois structures? Ce sont des associations? Ce sont des entreprises spécialisées dans le télétravail?
Alors, LBMG, c'est une entreprise de consultants. Ce sont des consultants autour de ces questions-là qui accompagnent des entreprises et des collectivités à la mise en place du télétravail dans leurs entreprises. The Village, c'est un éditeur, donc c'est un site internet référent sur ces questions-là et qui organise aussi pas mal d'événements, de tables rondes sur ces questions. Et OpenScope, c'est une coopérative d'activité. Voilà.
D'accord.
Et donc, du coup, ces trois structures proposent ce format-là du télétravail. Nous, on les a rencontrés et on leur a proposé la version rurale en Lozère. Donc, il se tiendra le 9 octobre dans les locaux de Pollen.
Ils ne viennent pas à vélo, hein, rassurez-vous.
Ils
ne
viennent pas à vélo, non.
D'accord.
Ce n'est pas un truc de développement durable.
Non, non. Quoique, le télétravail, ça évite des déplacements.
Complètement. Longs.
Ça, ils participent.
Ça y participe, tout à fait.
Mais comment ils ont trouvé l'idée de vous inscrire? Parce que, bon, on a vu qu'il y avait Saint-Étienne, Bordeaux, Paris, Nantes, etc.
Ils ont trouvé l'idée parce qu'on leur a soufflé l'idée.
D'accord, parce que c'est vous qui...
On les a rencontrés.
En fait, vous
êtes
inscrits là-dedans en disant, nous, on a peut-être une initiative dans le monde hyper-rural. Qui nous entoure, on travaille un peu différemment, mais nos problématiques se rapprochent, c'est ça ?
C'est tout à fait ça, c'est ça.
Ça s'est passé à la quinzaine des tiers-lieux, il y avait un moment, un phare à Saint-Étienne, et du coup, il y avait des discussions autour du télétravail en milieu urbain, et donc nous, on allait voir un petit peu, justement, les porteurs de projets, justement, de ce Tour de France, en disant, il faut y aller, là, on a quelque chose en Lozère... Voilà, nous, on veut organiser un bel événement pour mettre en valeur le réseau Solozère. Et du coup, ça pourrait correspondre. Et ça permettrait à la fois à Solozère d'avoir une dimension nationale l'espace d'un instant et de s'inscrire parmi des villes comme Paris, Strasbourg, Bordeaux. Et en même temps, voilà, donc ça permet aussi pour eux d'enrichir leur réflexion en arrivant sur des thématiques rurales.
Oui, c'était ma question un petit peu de savoir si ça rebondissait un petit peu sur à l'envers. C'est-à-dire, ce que eux ne cherchent pas à délocaliser leurs télécentres qui seraient sur Bordeaux et les mettre en périphérie ou sur les villages du premier cercle autour de Bordeaux plutôt que tout reconcentrer sur Bordeaux.
Il y a des exemples comme ça à Paris notamment. Donc il y a un grand tiers-lieu qui est très connu qui s'appelle la Mutinerie qui aujourd'hui organise des sessions de mise au vert donc avec Mutinerie Village. Et voilà, un petit peu comme le principe des résidences artistiques, une volonté d'emmener les freelances quelques jours au vert pour pouvoir se reconcentrer, travailler. Donc il y a un petit peu cette dynamique qui se construit autour des tiers-lieux urbains. Et du coup, nous, on s'inscrit aussi un petit peu là-dedans.
C'est le deuxième Tour de France. Il y a eu une étape dans un milieu rural l'an dernier ou c'est la première fois que...
Alors, l'année dernière, il me semble qu'il y a eu une étape dans l'Oise ou dans l'Orne, mais je ne saurais pas exactement.
D'accord. En tout cas, il y en a une cette année.
En tout cas, sur cette année-là, oui.
Jeudi 9 octobre 2014, Amanda. Alors, le programme, vous avez parlé de ce programme en disant comment le numérique, en fait, favorise le développement économique. Ça, c'est une donnée intéressante. C'est vrai qu'en période de crise, de développement économique ralenti, comment est-ce que ces nouveaux outils peuvent être vecteurs, surtout dans le monde rural et en ce qui nous concerne, parce qu'on est quand même à 25 bornes, 28 bornes de l'autoroute, comment on fait pour attirer potentiellement de l'économie sur nos territoires par le télétravail?
Et bien, c'est justement à cette question, entre autres, qu'on essaiera de répondre le 9. Donc, l'idée, c'est en effet de pouvoir placer le numérique, le télétravail et toutes les pratiques professionnelles qui y sont liées en termes de... potentiel vecteur de développement pour nos territoires. Alors, à la fois pour attirer de nouvelles entreprises, à la fois pour permettre à des personnes travaillant dans des centres urbains de venir s'installer en campagne et en ruralité. Et c'est aussi de pouvoir dire qu'il existe sur nos territoires une offre complète qui permet et qui est un écosystème propice à l'installation d'entreprises, à l'installation de télétravailleurs, à l'installation de salariés, de familles, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de valoriser ce qu'ont nos territoires, et en l'occurrence la Lozère, pour pouvoir attirer ce public-là. Alors, le numérique permet ça, en fait, voilà. Donc c'est un peu l'idée.
tout cela sous la forme de tables rondes et d'ateliers participatifs.
Oui, donc le matin, il y aura 2 tables rondes autour du numérique, autour des nouvelles formes d'organisation. Buffet collaboratif le midi, parce qu'on veut aussi que cet événement permette de favoriser l'échange entre les différentes personnes qui seront là ce jour-là. Et puis des ateliers participatifs l'après-midi.
Voilà. Excusez-moi, un buffet collaboratif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on mange dans l'assiette de l'autre
Non, du tout, c'est-à-dire qu'on fait ensemble ce qu'on va manger le midi. Voilà.
Donc c'est on fait ensemble.
On fait ensemble, on cuisine ensemble sur des plats simples évidemment, mais on cuisine ensemble et ça permet de.
Genre brazuca de plancha quoi.
Par exemple.
C'est non, pas encore décidé, concept, mais parce qu'il y a des cèpes en ce moment, donc c'était juste.
Ça pourrait, ouais, ça pourrait. Hein. Puis en octobre, ça sera la saison, donc pourquoi pas, ouais. Et du coup, sur les 2 temps forts aussi qui seront tout au long de la journée sur ce lieu-là, c'est la présence d'un tiers-lieu éphémère, parce que le mot tiers-lieu, on l'a pas forcément défini, enfin, l'a évoqué, mais ça parle pas à tout le monde. Donc, l'idée, au lieu de le définir, c'est de le vivre. Donc, sur cette journée-là, il y aura un tiers-lieu éphémère, on pourra voir ce que c'est, le vivre, les gens pourront se poser avec leur ordinateur, voilà, l'idée, c'est de pouvoir expérimenter ça. Et puis, médias participatifs aussi tout au long de la journée, et puis aussi avec les radios locales. Mais du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir un média qui permette de faire des interviews. Je viendrai vous interviewer, on pourra changer de casquette, et voilà.
Pas de problème.
Il y a des spécialistes du télétravail qui vont venir à cette occasion pour débattre de ces problématiques.
Complètement.
Ah oui, on a un programme qui est chargé. On a par exemple Bruno Morisset de Lyon 2 du CNRS qui travaille justement sur le comparatif entre les entreprises rurales et les entreprises urbaines.
Oui, là, c'est des chercheurs en fait. Forcément des professionnels.
Non, il va y avoir de tout. Donc là, c'est le premier, donc c'est un chercheur.
On va avoir, c'est à quelle heure ?
Donc ça va être dès le matin à 9h30 sur la première table ronde. Après,
Il faut expliquer qu'il y a donc 2 tables rondes le matin. Ouais. Un buffet collaboratif où on fait le repas
tous ensemble.
Après, il y a à 14h un barcamp, atelier participatif, on en reparlera tout à l'heure.
Oui.
Et puis, la présence de ce tiers-lieu et puis de ces reportages qui pourront être faits toute la journée. Le matin, accueil sur l'idée du comment le numérique favorise les nouveaux modèles économiques adaptés aux.
Donc là, en l'occurrence, les organisateurs de l'événement du Tour
national,
de France national seront présents et présenteront en effet l'événement national.
Ouais. Voilà. Après, ce chercheur du CNRS.
Ouais, et ce chercheur, on va essayer de le confronter justement avec des entreprises lausériennes comme BM Service qui font du e-commerce en milieu rural. On va avoir d'autres, des porteurs, des institutionnels. Il va y avoir par exemple Loïc Richer de la Ruche Numérique qui fait partie de la CCI du Mans. On va avoir plusieurs types de profils, à la fois chercheurs, à la fois entrepreneurs, à la fois parapublic. Et on va essayer de mettre un petit peu ensemble tout le monde pour pouvoir discuter et cerner un problème avec différentes casquettes.
Et aussi, donc, du coup, déjà, en effet, de différents secteurs d'activité et de différents lieux. C'est-à-dire que dans les intervenants, il y a des gens qui viennent de territoires urbains, qui portent des projets en territoire urbain. L'idée, c'est aussi de pouvoir les faire venir. On a des acteurs locaux, nationaux, qui viennent un peu de partout. C'est de pouvoir un peu confronter toutes les visions autour de ces questions-là pour créer le débat.
C'est ouvert au grand public ou...
Complètement.
Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Sébastien Kuhn, là-bas, de Bagnoles, il peut venir du Bléma.
Oui, d'ailleurs, donc on a déjà ouvert sur le site solosaire.com un espace justement d'inscription. C'est-à-dire qu'il y a une petite feuille.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sébastien, de cette initiative
Je sais pas. Je comprends que c'est le télétravail, c'est un moyen de développement pour accueillir du monde ici. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, du coup, la plateforme, enfin les plateformes en elles-mêmes, les lieux. Du coup, j'imagine que les gens viennent pas tous les jours. Enfin, c'est plutôt parce que pour moi, l'avantage effectivement du télétravail, c'est de pouvoir travailler chez soi. Et du coup, je dois. Quel est l'avantage pour les gens d'aller se retrouver à des moments, à part des moments ponctuels ?
Oui, alors en effet, c'est complètement ponctuel le télétravail. C'est une journée, 2 journées par semaine. Ça n'est absolument pas une alternative sur un temps plein, sur un autre espace. L'idée, c'est que déjà, pour les télétravailleurs salariés, ils sont souvent encore dans leur entreprise et sont en détachement, alors soit une semaine ou un jour par semaine. Voilà. Et quand vous êtes télétravailleur à domicile, l'idée c'est de pouvoir vous rendre sur un espace un jour, 2 jours, une après-midi ou uniquement sur les événements proposés pour rencontrer et faire du lien.
Est-ce que tu as l'impression de faire du télétravail, toi?
Ouais. C'est facile. Enfin, ouais, des fois je le fais chez moi. Et je le... Enfin, après, à partir du moment, je pense, où tu travailles tout seul dans, chez toi ou dans un petit bureau qui est.
C'est, enfin, du, voilà,
c'est du télétravail. Mmh. Après, du coup, bah oui, le, moi, le lien social, je le vis à travers l'asso autour. Et puis, les gens. Du coup, moi, j'ai pas le, j'éprouve pas le besoin d'aller, par exemple, à Villefort ou au Pont-Montvert pour travailler sur une plateforme.
Oui, mais est-ce que si sur cette plateforme, par exemple, on te proposait des formations ou. Ou un accompagnement sur un projet spécifique, ça t'intéresserait?
Oui.
Parce que c'est ça.
Oui, ça peut, oui.
Ouais. Et c'est un partage d'expérience, oui, avec les autres
télétravailleurs. Et bien voilà, on vient de mettre en relation un futur télétravailleur dans un télécentre. Voilà.
Et du coup, il va y avoir un rendu de ce Tour de France, au final, après cette année, un rendu sur tous les thèmes qui ont été développés, ou c'est juste...
Alors, c'est un temps fort sur cet automne. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire rencontrer, encore une fois, nos télétravailleurs qui sont évidemment invités à cette journée, avec des entreprises qui seront présentes, avec d'autres acteurs du réseau. Et du coup, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'après, on a aussi on a mis en place des outils pour les télétravailleurs. Donc, il y a le site solozer.com dont parlait Vincent. Il y a aussi un réseau social. Du coup, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent continuer c'est extrêmement important d'avoir ces temps en présentiel. On fait des journées, des matinées de coworking ou d'ateliers sur les espaces télécentres. L'idée, c'est qu'ils puissent continuer après à créer du lien ensemble sur des réseaux virtuels. Cette journée aura évidemment des répercussions après sur notre territoire, on l'espère en tout cas. En tout cas, en création de liens, éventuellement d'activités.
D'accord. Une autre table ronde sur comment accompagne-t-on les nouvelles formes d'organisation de travail. Mm-hmm. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on n'a pas exploré toutes les palettes de ce télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ma vision d'aujourd'hui et de ma connaissance de ce que ça peut être, hein, donc tout est relatif, c'est simplement pour dire qu'on l'a vu dans un sens où on sort les salariés de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de créer de l'emploi, d'induire les entreprises à aller chercher des prestataires extérieurs qui seraient en télétravail et de leur confier du travail. Je pense à du travail de saisie, du travail un peu basique aussi, hein, pas forcément très très élaboré comme la création de sites internet ou...
Si, justement, là, à l'occasion de ce Tour de France du télétravail, justement, c'est des moments pour pouvoir discuter et réfléchir autour de ça. Nous, à Lozère Développement, là, on travaille à la fois sur des axes, à savoir s'il serait pertinent de promouvoir une offre de home shoring. Donc, le home shoring, c'est par exemple du...
Home shoring,
c'est prise d'appel, voilà, l'appel à la maison.
Un télécentre d'appel, quoi.
Voilà, un télécentre d'appel avec des téléconseillers qui sont à la maison. Le problème, c'est qu'il faut faire attention.
Au Maghreb,
par exemple. Il y en a au Maghreb.
Mais ça pourrait être en milieu rural.
Ça pourrait être en milieu rural sur des prestations à forte valeur ajoutée pour des médecins, pour des avocats,
d'accord.
Des bureaux d'architectes, etc. Donc ça, c'est un premier axe de développement. On a d'autres axes de développement, notamment on essaie de travailler en ce moment sur la construction d'une offre d'accueil pour les grands comptes, c'est-à-dire essayer de prospecter les entreprises très installées, les grosses entreprises, et leur dire, voilà, si vous voulez déporter des équipes avec des cadres qui sont en situation peut-être difficile ou qui ont besoin d'avoir un retour sur un milieu moins oppressant que la ville. Nous on vous propose une offre avec un accompagnement. Vous venez avec votre équipe, on essaie de mettre en relation avec des psychologues, etc., pour pouvoir faire des préventions du burn-out, etc. Donc ça, c'est des secteurs qui n'existent pas encore.
Sur lesquels vous avez parlé à Orange de ça, non?
Il faut se méfier avec Orange parce que justement Orange ils sont très très innovateurs, comme ils ont pas mal de soucis.
Non mais c'était une boutade.
Ouais, mais ils sont justement très 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 partants justement au niveau du télétravail. Il y a...
Oui, ça faisait partie d'une de mes questions. C'est comment les entreprises aujourd'hui de transport de ces informations, que ce soit Orange, Vinci, toutes ces grosses boîtes en fait qui mettent en place la fibre en France, etc. Comment elles s'inscrivent dans cette idée du télétravail? Où est-ce qu'elles sont inscrites? Est-ce qu'elles sont partenaires? Comment elles interviennent? Parce que c'est vrai qu'en Lozère, on a quand même un handicap, c'est la couverture. On en parle depuis longtemps, mais la fibre va arriver à Mende. C'est arrivé près de chez vous. C'est vrai qu'à proximité, par exemple, à Balsièges, on a du mal à se connecter. Donc comment on fait pour développer à la fois le télétravail en milieu rural et les infrastructures?
Justement, tout à l'heure, il y avait une autre question qui rejoignait, c'était pourquoi est-ce qu'on essaie de créer des pôles en milieu rural ? C'est aussi pour ça, c'est-à-dire qu'avec des équipements type télécentre, ça permet d'avoir des points à partir desquels tirer les canaux. Si on a simplement un territoire diffus avec des télétravailleurs qui sont homogènement répartis sur le territoire, on ne peut pas tirer...
Les
infrastructures partout. Ouais. Par contre, si on a des points qui vont être un petit peu des têtes de pont sur un réseau, là, il y a la possibilité de faire venir. Et du coup, le travail aussi qu'on met en place avec Solosaire, avec justement la catégorisation de chacun des lieux qui peut accueillir des télétravailleurs, ça aide, ça contribue en tout cas à ces dynamiques pour essayer de faire venir les réseaux le plus loin possible sur le territoire.
Et Orange et tout ça, alors ?
Là, en ce moment, je ne sais pas trop.
Alors, c'est vrai qu'eux, après, au sein de leur entreprise et de leurs équipes, ils mettent en place des dispositifs de télétravail. Sur la table ronde de deux, justement, vous le disiez, on va présenter des expérimentations d'entreprises ou de collectivités qui expérimentent actuellement le télétravail. Et Orange est en phase d'expérimentation avec leurs salariés. Donc, du coup, ils seront d'ailleurs là aussi à ce titre-là, en présentation de leur expérimentation au sein de leur entreprise. Voilà. On aura aussi des collectivités comme le Conseil général de la Lozère qui expérimente le télétravail. Et quelqu'un de l'ARACT, de l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, parce qu'un axe du télétravail, c'est aussi l'amélioration des conditions de travail et le bien-être du salarié. Donc toutes ces questions-là dans la table ronde 2.
C'est bien. Et ensuite, buffet collaboratif.
Voilà.
Et le Barcamp, alors les ateliers participatifs, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, ce sont des ateliers, en fait, d'échanges, de débats, où il y a une production commune à la fin de chaque atelier, où on réfléchit à une problématique. On essaie, alors, des gens de différents horizons qui réfléchissent ensemble et qui proposent des pistes de solutions, des pistes de réflexion sur une thématique en particulier.
D'accord.
Voilà.
Ben, ça fait une belle
et
journée.
On aura deux ateliers l'après-midi, une sur une réflexion autour de l'activité tertiaire en tant qu'indépendant en milieu rural, donc comment on constitue, en effet, un réseau... De freelance, comment on s'organise en milieu rural pour travailler ensemble quand on est indépendant. Et puis le deuxième atelier sur justement les modèles économiques de ces espaces de télétravail. Donc là, on aura une équipe qui s'appelle Tilios et qui organise justement tout ce qui est tiers-lieu en France. Et du coup, ils viendront présenter, et c'est eux qui seront là aussi au titre du tiers-lieu éphémère sur la journée, ce que c'est qu'un tiers-lieu, quel modèle économique on peut envisager pour ces espaces-là. Et quels services aussi sur ces espaces, on trouve.
Très bien.
Bah ouais, ça fait un beau programme, une belle initiative, en tout cas soulignée, dans ce MAG, qui a toute sa place, ce qu'il faut. Voilà.
Ça sera le 9 octobre prochain. De toute façon, on est en pourparlers avec la Maison de l'Emploi pour être partenaire également et venir faire certaines...
Est-ce que la NPE a été...
Pôle emploi.
Pôle emploi, sera probablement là aussi, parce qu'en tout cas, ils sont informés.
Qu'ils sont ça, c'est vraiment intéressant
Donc, ils suivent aussi le réseau Solosaire également. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont informés que ça existe
ensemble,
et on travaille avec eux sur ces questions-là.
La mission locale.
La mission locale aussi, bien sûr.
Voilà,
sont aussi nos partenaires.
Voilà.
9 octobre à Pollen. De toute façon, d'ici là, on reviendra dessus. On en reparlera bien évidemment dans ce mag. Allez, une petite pause musicale avec Janis Joplin et on parle du Dandy Manchot. Like you on the only man.
48 FM Le Mag.
Allez, c'est la suite de ce mag sur 48 FM avec le Rude Boy Crew, Sébastien Kuhn, qui est là pour nous parler de la balade du Dandy Manchot. Donc c'est un spectacle qu'on attendait parce que ça fait quasiment une année qu'ils viennent régulièrement au Blémard pour travailler ce spectacle, une résidence d'artistes pour cette balade du Dandy Manchot qui va être proposée les 20 et 21 septembre. La compagnie qui vient jouer ce spectacle, Sébastien.
Oui, c'est la compagnie du Dandy Manchot.
C'est la compagnie du Dandy Manchot.
Alors le Dandy Manchot, c'est en deux mots. Hein. C'est oui. Le Dandy Manchot.
Oui, bien sûr. Voilà.
Et qui sont...
Pas cette question.
Non, non, parce qu'on dit le Dandy Manchot, t'as l'impression que c'est un seul mot. Quoi.
Ah oui. Oui, d'accord. Ça commence bien. Non, c'est une compagnie qui est basée dans l'Aude. C'est une compagnie qui travaille les arts de rue essentiellement dans les espaces naturels. Du coup, on s'était rencontré il y a peut-être 2 ans avec Jérémy, qui est le directeur artistique de la compagnie, juste sur une présentation d'images qui illustrait son travail. Il expliquait quel était son travail. Donc, c'est une compagnie qui a un spectacle qui s'appelle Secteur Postal 212, qui est venu jouer au Festival d'Olt et qui aussi travaille beaucoup de projets en lien avec les territoires. Parce que ce dont il parle, c'est des espaces naturels, c'est de l'humain, c'est du lien entre la nature et les êtres humains. C'est-à-dire que s'il veut travailler dans la nature, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il pense que le paysage a une influence sur la vie des hommes et des femmes localement, et inversement. Et du coup, c'est ça qui intéresse Jérémy dans son travail. Voilà, du coup, là, on a monté un projet de territoire, donc à l'année. Effectivement, notre première rencontre sur le territoire au Mont-Mozère, c'était l'année dernière, il y a pile un an. Depuis, ils sont revenus 4 semaines en résidence, donc souvent à deux, avec son compère Christophe. Voilà. Puis là, la dernière semaine de résidence qui se passe actuellement, là, toute l'équipe est sur la montagne tout de suite. Là, ils sont 10, donc pour travailler le rendu final, qui va être le spectacle, qui va être la balade, qui va avoir lieu samedi et dimanche.
Donc c'est quoi? C'est une fable? C'est un conte? C'est
non, une écriture qui est... Ils définissent comme une fable. Ouais. C'est-à-dire on va dire qu'ils ont une sorte de synopsis, c'est-à-dire de quoi ils ont envie de parler, qui peut se transporter partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire la même amende, au-dessus de Mende, par exemple, de la nature, qu'au Blémard. Et après, ils ont une méthode de travail qui est une méthode de travail sur le collectage. C'est-à-dire qu'ils vont voir des gens importants, qui rencontrent dans le village, pour parler de qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui s'est passé avant, comment ça peut évoluer et quelles sont les problématiques locales. Là donc on est sur le haut du Mont-Lozère, on va parler essentiellement de frontières, parce que le Mont-Lozère c'est quand même une frontière très très marquante de notre endroit. C'est une frontière au niveau religion, c'est une frontière au niveau géographique, avec les difficultés de passer le col l'hiver qui sont pas des moindres. Enfin, le Blémard pour le Mont-Lozère il y a 20 minutes, mais les passages entre de l'un à l'autre se font difficilement quand même, et puis c'est aussi une ligne de partage des eaux. Enfin voilà, il y a toute cette importance là, et donc ça va être une fable sur qui va parler essentiellement de frontières, qui va parler de plein de choses aussi. Enfin voilà, de la vie.
Qui lie le passé au futur, c'est ça?
Oui, surtout au passé. Après, dans l'idée de se plonger dans le passé, c'est de mieux comprendre comment on en est, enfin où on en est maintenant aussi.
Ouais. Oui, ça s'est partagé, parce que Pierre Bordage, par exemple, dit exactement le contraire. Se plonger dans le futur, c'est mieux comprendre le présent.
Ah, mais voilà. C'est sûr, les deux. Mais là, ils partent sur des histoires. Enfin, justement, quand on parle de fable, c'est aussi, ils ont fait donc, beaucoup de collectage. On a aussi travaillé avec une base de données qui était un DVD là, de 2 heures de collectage de chants et d'histoires sur le Mont-Lozère, qui avait été donné par les archives départementales il y a 4 ans, quand on avait travaillé sur un autre projet. Et voilà, c'est pour ça ils ont choisi de travailler sur la matière du passé, des racines.
Donc ils sont venus sur 3 résidences, c'est ça, en gros?
C'est ça, une première fois 15 jours en avril. Donc là,
donc là, ils ont fait un repérage pendant
Ils ont repéré à quel endroit ils voulaient travailler sur le Mont-Lozère. Ils ont rencontré les ressources locales, on va dire. Donc que ce soit aller à l'écomusée du Mont-Lozère, que ce soit rencontrer des personnes ressources dans le village au Blémard. Voilà, donc là, 15 jours en tout en avril.
C'est que le Blémard ou c'est de l'autre côté avec le Finesse,
Non, là on est même la balade en fait ne se passe même pas sur la commune du Blémard. C'est que Mas d'Orcières et Pont de Montvert. Voilà, mais après, c'est plutôt au Blémar qu'ils ont rencontré des gens. Après, ils sont revenus une semaine juste avant le Festival d'Olt travailler sur le secteur postal 212, parce qu'on a construit un projet où ça nous paraissait intéressant de diffuser dans un moment où il y avait du monde aussi au festival un spectacle déjà créé de la compagnie, qui est quand même le même univers, hein, c'est pareil, c'est un passeur de mémoire, ils se définissent comme des passeurs de mémoire, toute cette équipe-là. Et puis là, ils sont une semaine à travailler sur la montagne directement avec une équipe. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe, elle est vraiment variée. Il y a des gens qui font du land art, il y a des musiciens, il y a une danseuse, il y a des acteurs. Voilà, c'est une équipe jeune qui s'est rencontrée pour une partie en formation d'art de rue sur Marseille. Voilà.
Le fait que ça tombe pendant les journées du patrimoine, c'était voulu ?
Oui. Ça fait 4 ans qu'on a engagé un projet entre art de la rue et patrimoine, et l'idée de faire se rencontrer des œuvres artistiques et des lieux forts de notre patrimoine dans une idée de croiser les publics, mais aussi d'interroger les artistes, d'interroger le public et aussi d'interroger le patrimoine, c'est-à-dire de jouer avec. On avait commencé en 2011 avec Tango Sumo, qui avait fait un spectacle de danse dans les ruines du château du Tournel, voilà, qui était un lieu fort du patrimoine de notre secteur. Et puis voilà, le spectacle était obligé de s'adapter au lieu. Les gens venaient autant pour voir un spectacle que pour voir qu'est-ce qu'on faisait dans le château. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a donné envie de continuer. Donc l'année d'après, on a vendu Masse d'Orcières. Donc là, plus sur une forme détournée de qu'est-ce que c'est, pourquoi les villages sont aussi vides chez nous. L'année d'après, on a travaillé avec Humanitéâtre sur un projet pareil à partir de paroles des habitants. C'était le cabaret du monde vu d'ici. Donc voilà, on essaie de progresser là-dedans aussi, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est pas que du patrimoine bâti, c'est aussi du patrimoine culturel, c'est aussi les gens qui habitent sur place. Et là, on a voulu, mais voilà, quand on est au Blémar et qu'on a cette montagne au-dessus de nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller travailler avec, quoi, parce que c'est quand même un super outil. Et il se trouve que la rencontre avec Jérémy et le Dandy Manchot, voilà, c'est eux, ils travaillent là-dessus, nous, ça nous intéresse.
Est-ce que ces spectacles sont diffusés après, ou est-ce qu'ils sont juste créés au Blémar et ensuite n'ont pas de diffusion postérieure?
Le même spectacle pourra pas avoir de diffusion ailleurs. Je pense que même entre samedi et dimanche, ça sera pas exactement le même, forcément, parce que même s'il y a des choses qui sont calées, il y a des choses qui bougent avec les éléments. Leur spectacle, c'est un concept. Enfin, c'est un concept, c'est-à-dire c'est un type de comment on travaille pour parler de du territoire dans lequel on est. Ils ont travaillé cet été là, autour en Aveyron, je crois, autour d'un lac de barrage construit par EDF qui était vidé et dans lequel EDF leur a demandé de faire un spectacle autour de ça. Donc ils ont raconté la construction du barrage avec des histoires d'humains autour, avec des fictions, mais qui parlent quand même avant tout des lieux. Donc après leur concept de comment ils travaillent, ça c'est exportable partout. Et du coup, ça, heureusement pour eux, parce que sinon ils mettraient un an à faire le spectacle. Mais voilà, c'est pas envisageable de faire une telle action sans au minimum 3 semaines de résidence.
Au Mont-Aigoual, par exemple, de refaire le même, c'est pas pareil.
Ben non, 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 c'est pas bien le Mont-Aigoual.
C'est une randonnée de 7 km alors.
Oui.
Pas un peu beaucoup pour un spectacle?
Non, ça va, ça passe tout seul 7 km. Non, surtout, mais en même temps, si on veut varier les plaisirs, si on veut varier des parties en forêt, des parties sur des grandes étendues, on est obligé de faire un petit peu. Puis l'idée, c'était de faire une boucle. Du coup, faire une boucle de 2 km, c'est pas très intéressant. Et puis la démarche de le faire sous forme d'une randonnée, c'est aussi une démarche volontaire, c'est-à-dire les gens viennent et
pour randonner aussi.
Oui, voilà. Après, c'est pas 7 km en 3h30. Ouais. On l'a fait hier. Ça va. C'est pas du tout difficile. Même s'il y a des endroits où ça monte. C'est sûr qu'on peut pas venir en fauteuil roulant ou en poussette. Mais tant pis pour cette action-là. Voilà. Ça,
c'est du 2 km/h. Donc, c'est même pas de la marche, quoi.
Non, ça va. Mais après, il y a forcément des endroits où on va s'arrêter. Puisqu'il y a c'est une balade avec des scénettes. Avec à des endroits, il y aura des choses visuelles qui vont servir
à
l'histoire.
Oui, parce que tu disais donc. Qui avait à la fois tête visuelle, musique, danse, gestuelle, théâtre, conte, fable. Donc oui. Ça fait beaucoup d'intervenants qui sont disséminés tout au long du parcours, ou est-ce que c'est par endroits spécifiques qui ont été stratégiquement reconnus et...
Les deux. Non, les deux, honnêtement, oui. Voilà, il va y avoir des choses qui vont... L'idée, c'est que le public qui randonne soit tout le temps dans le spectacle. Donc il y a des fois, il y aura juste des œuvres on va dire plus sous forme de land art, des moments, des rencontres avec des personnages, et des moments où c'est juste le paysage qui sert le propos. Mais c'est calculé, c'est-à-dire que s'ils ont fait 15 jours de repérage, puis ils sont revenus au mois d'août aussi pour voir le côté du pont de Montvert et pour retravailler l'histoire par rapport au lieu, on passe pas à n'importe quel endroit pour rien. Voilà, c'est ça. C'est tout est là pour servir la plongée dans l'histoire dans laquelle il nous amène.
Il y a un spectacle de 4 heures, c'est rare, hein, au final.
Oui, c'est ça. Ouais.
Si, tu le vois un peu dans la cour d'honneur d'Avignon, des fois, toute la nuit, quoi.
Mais alors, pour marcher pendant 4 heures dans la cour d'honneur du Palais des Papes,
c'est un peu lourd.
Tu tournes un peu en rond, mais... c'est quand même un concept qui existe depuis de nombreuses années, des spectacles comme ça qui s'immiscient sur un territoire et qui traitent du territoire. Je pense notamment à Mademoiselle au bord du Loup, la nuit, qui est un conte aussi, une fable, hein, sur l'histoire de du petit chèvre rouge, en fait, revisiter, qui est aussi une balade. Je pense à d'autres spectacles comme ça aussi, à Vendre, bon, qui était dans un village. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi un petit peu à un renouvellement de la création artistique pour certains artistes qui ont envie de se rapprocher, alors pas forcément du milieu naturel comme là, hein, spécifiquement, mais de repenser le spectacle dans une dynamique un peu différente et de faire que les publics soient un peu acteurs. Parce que là, finalement, on leur demande de faire un effort, on leur demande de faire un parcours. Est-ce que c'est pas reconstruire ou construire intellectuellement par rapport au public un autre aspect du spectacle vivant ?
Alors, si, complètement. Et après, je ne sais pas de qui vient la demande. Est-ce que c'est les artistes qui ont plus envie ou est-ce que c'est les programmateurs ? Bon, pour le coup, là, sur le Dendimanche Show, c'est clairement, eux, une manière qu'ils ont de travailler, c'est-à-dire de s'inscrire dans les espaces naturels, donc du coup, de les travailler à plus long terme. Après, nous, dans notre action au Blémard, si on veut avoir une action de développement un petit peu à l'année, c'est pas en programmant uniquement des spectacles un soir et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Qu'on construit c'est pas comme ça qu'on construit notre projet. On construit autour de résidences, autour de donner la parole aux habitants. Enfin voilà, on essaie de créer un autre rapport au spectacle aussi parce que c'est pas évident de toucher beaucoup, d'avoir, on n'est pas dans un milieu où il y a beaucoup de population. Donc du coup, on a forcément moins de spectateurs qu'à Mende, par exemple. Du coup, on a choisi de travailler le rapport au public comme ça, c'est-à-dire pas le forcer, mais d'aller le toucher sur des moments en disant c'est pas que du spectacle, c'est quelque chose qui parle d'ici, qui peut vous servir autrement, c'est pas juste du divertissement, par exemple.
D'accord. Est-ce que vous avez pensé aux autres publics qui finalement ne vivent pas sur le village et qui ne vivent pas ça ? C'est-à-dire, de quelle façon, bon, c'est pas le lien avec le télétravail, mais peut-être à la rigueur de faire comme ce qu'a fait Christelle Mélène, là, qui est partie, qui fait un blog de toute son histoire et qui parcourt la France. Donc qui va de site en site, qui reste en résidence et qui raconte ses découvertes, etc. Donc il y a tout un public qui suit cette histoire-là, qui se l'approprie, et certains verront jamais le spectacle. Mais en tout cas, c'est aussi une autre façon, je pense, de travailler la création artistique.
Alors... Sur les gens qui sont pas là, qui sont pas du coin et qui viendraient au spectacle, déjà, je pense que l'histoire qui traite, l'histoire dont ils parlent, elle est universelle. Voilà.
Aussi, ouais,
donc ça, il y a pas de souci. Après, c'est une compagnie qui effectivement, vu que ces randos, enfin ces balades, les balades du Dendimanche Show, ils sont sur. Honnêtement, ils peuvent pas en faire plus de 3 par an. Ils ont pas le temps d'en faire plus de 3 par an. Là, ils en ont fait 2 cette année. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent développer beaucoup. Donc du coup, effectivement, il y a un fort lien avec leur site internet où, vous pouvez aller voir, taper Dendimanche Show sur internet, et il y a beaucoup de blogs notamment, et il y a un témoignage vraiment marquant d'une action, c'est-à-dire la première action qu'ils avaient fait en montagne était une action de Théâtre de l'Invisible en partenariat avec, en collaboration, on va dire, avec un guide qui fait partie de l'équipe, un guide de montagne qui avait emmené un groupe et dans lequel il se passait des actions artistiques. Des rencontres avec le personnage du Dendimanche Show, mais pour lequel les gens n'étaient pas du tout au courant. C'était un groupe qui randonnait dans les Pyrénées. Et voilà, il y a une ado là, qui a écrit un truc sur cette expérience qu'elle a vécue là, qui est absolument fabuleux. Et voilà, et du coup, ils continuent, eux, ils fournissent pas mal d'articles sur comment ils travaillent et pourquoi ils travaillent, parce que quand même, leur intérêt, c'est de toucher les gens au plus près. Ils parlent vraiment de l'humain, et c'est plutôt des formes intimistes quand même. Là, on est sur une jauge à 100 personnes parce que d'une part, c'est pas très pratique. Et puis surtout, on a envie de
garder l'intime. Oui, 100 personnes, déjà, c'est pas mal sur une rando.
100 personnes, c'est pas mal sur une rando. Ouais, ça veut dire
que
ça
peut
vite faire un espèce de gros accordéon en fonction du rythme de marche des gens.
S'il faut attendre le dernier,
c'est ça.
C'est embêtant.
Il est où Gérard?
On a perdu.
Il s'est gouré à la
C'est pour ça qu'il y aura. On fournit. Il y aura un accompagnateur moyenne montagne avec.
Il y a une voiture balai.
On est tous là pour accompagner un peu les gens parce que voilà, faut pas se perdre.
Alors, est-ce qu'il y a un moment convivial avec
Oui, bien sûr.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Et la participation est libre, c'est à noter.
Oui. Bah c'est le principe des arts de la rue, c'est que quand c'est dans les espaces publics, parce que là ça a beau être la nature, c'est un espace public, on va pas empêcher les gens d'aller dans l'espace public, parce que même ce qui nous intéresse, c'est que c'est quasi sûr qu'il y aura des randonneurs qui sont pas là pour la balade, qui vont se joindre au groupe. Et après, là, d'annoncer une participation libre, c'est aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que c'est gratuit que qu'il y a ça un coût aussi, que ça a une valeur.
Après, les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin. Parlons des coûts. La résidence, l'accueil de la compagnie, l'hébergement, tout ça. Qui paye tout ça, finalement?
C'est vous, chers auditeurs. bien sûr, c'est vous. Non, qui c'est qui paye? Ben là, c'est un projet un peu long. Donc, c'est un projet pour lequel on a été chercher des financements spécifiques. Les projets de territoire, quand ils sont construits de façon un peu complète, donc avec des actions en direction des publics, des choses comme ça, on peut plus facilement avoir des sous. Là, on a la région en principal partenaire. Après, on a un peu de DRAC dans le cadre des politiques des publics, le conseil général. On a un partenariat avec l'Atéline, qui est le lieu de fabrique des arts de la rue à côté de Montpellier. Il y a les scènes croisées qui suivent un petit peu, Réseau en scène, et puis les conseillers généraux du canton du Blémard et du canton du Pont de Montvert. Voilà, qui se sont retrouvés là-dessus, sur ce projet-là. Voilà, plus des partenariats, après locaux, avec la station de ski, le chalet, ça plus sur des partenariats logistiques, voilà. Parce que c'est pas complètement rien d'amener tout ce qu'on va amener là-haut, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est déjà un quart d'heure de voiture du Blémard, et puis voilà, il n'y a rien là-haut, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, donc il faut trouver des fonctionnements logistiques les plus simples possibles.
Adéquats.
Hein ?
Adéquats,
si tu veux.
Adeline, ça vous dit quelque chose, cette balade artistique?
Ça vous donne
envie? Ça vous parle?
Ah oui, complètement. Déjà, je trouve l'idée d'être dans la nature et de vivre et d'être au cœur du spectacle déjà naturel, je trouve que c'est chouette. Et voilà, j'aime bien l'idée d'être aussi, je sais pas, de cette mobilité. C'est-à-dire qu'en général, on imagine un spectacle, on est assis quelque part et on attend que ça passe, même si c'est un bon moment. Voilà. Et du coup, là, l'idée d'être vraiment aussi acteur et que ça soit... qu'on avance, je sais pas, en tout cas je j'irai.
Et ben voilà, il y a plus que 99 places voilà. Pour la jauge.
Non, d'ailleurs, du coup on peut peut-être parler juste des infos pratiques s'il y a des auditeurs qui sont encore là.
Mais oui, comment ça marche? Parce qu'en fait il faut monter là-haut, il y a un bus, tu nous emmènes au départ de Mende, comment ça marche?
Non,
il
faut y aller là-haut par ses propres moyens,
en
covoiturage, parce que le parking du col de Finiels n'est pas très grand. Donc voilà, le col de Finiels, c'est vraiment la frontière entre les deux.
À 14h?
À 14h, pour un départ, la randonnée à 14h30. Faut pas qu'on parte après 14h30, parce que sinon, on peut être surpris par la nuit, et d'accord. C'est dangereux là-haut.
Le 20 septembre, voilà.
Le 20 et 21.
Et le 21 à 14h.
Exactement, on fait le même jour, les mêmes horaires, comme ça les gens peuvent choisir entre les deux.
Faut expliquer aux gens qu'il faut être vraiment en tenue, hein, qu'il faut pas venir... en talon aiguille, quoi.
Il y a 7 km et bon, on l'a fait hier, la rando. Honnêtement, on avait tous les pieds mouillés à la fin parce qu'on passe beaucoup dans l'herbe, on ne fait pas que les gros chemins du Mont-Lozère. L'idée, c'est d'aller dans des endroits un petit peu détournés. Donc voilà, il faut être équipé avec des chaussures le plus étanches possible. Souvent, en haut du Mont-Lozère, il y a un gros vent. Donc du coup, prenez des coupes-vent, prenez de l'eau, un petit encas. Enfin voilà, comme si vous alliez faire une marche de 4 heures dans une montagne. Même si vous n'allez pas marcher 4 heures de façon randonnée physique, il y a peu de kilomètres au final. Mais voilà.
C'est conseillé au jeune public aussi, ou on peut le faire en famille ça,
à partir du moment où l'enfant il est capable de marcher et d'être là sur 7 kilomètres. Non, mais je dirais, ça dépend des enfants. Après, ceux du Blémard, ils sont habitués à aller là-haut, ils sont beaucoup plus matures que les autres. Mais pour les enfants de Mende, on va limiter à 8 ans. Non, mais je sais pas. Ouais,
entre, et les bandeaux sportifs, 6 ans, c'est ça?
Pardon?
Oui, entre 8 et 10 ans.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et la réservation est indispensable par téléphone?
Bah oui, parce que quand il y a une jauge limitée, il faut bien qu'on sache.
Jauge limitée, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on peut accueillir. Et là, en volume, c'est 100 personnes,
oui.
C'est ça
hein 99, il y a...
Non, on avait déjà d'autres avant, des réservations. Non, mais vous pouvez réserver, il y a encore des places.
100
par jour, oui. En
session.
Donc, on appelle au 04 66...
45 20 50. 50.
Voilà. Et tout est expliqué sur le répondeur. Vous pouvez appeler maintenant même.
Voilà.
Si vous voulez. Les deux premières places seront gratuites.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Sébastien Kuhn, Rude Boy Crew. La saison repart vers janvier à peu près.
Oui, c'est ça, parce que là, c'est pas une ouverture de saison. On est dans le moment où tout le monde ouvre sa saison. Nous, on la clôture. Voilà. Après, on aura un spectacle
en
décembre. Et puis après, nouveau travail avec d'autres compagnies et des groupes de musique en résidence à partir de janvier avec Festival Dot, 14 au 16 mai 2015.
En tout cas, on peut dire quand même que ce qui se fait là-bas, Festival Dot, que ce soit la programmation à l'année, votre saison, ce travail de résidence, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une équipe comme ça, relativement jeune, hein, bon, qui est vieillie depuis quelques années, mais qui est très engagée sur un territoire. On sent qu'ils aiment ce territoire, qu'ils le mettent en valeur. En plus, ils font venir de superbes artistes, comme celui-là, mais bien d'autres dont on n'a pas cité, mais on reparlera de la programmation et de la saison bientôt. Et qu'il faut vraiment saluer cette initiative qui maintient aussi une activité économique, on en parlait précédemment, et que ce n'est pas rien, vous l'avez entendu, c'est de l'argent public aussi, mais c'est aussi la consommation locale, c'est une dynamique, c'est du transport, il y a tout un réseau qui se met en place sur un territoire et qu'il faut compter aussi avec ça. Et voilà, je voulais aussi vous féliciter, vous encourager à continuer parce qu'on a besoin de vous sur ces territoires.
Merci. Bon, il y avait un truc que je voulais rajouter, en fait, c'était sur notre projet donc de travail de territoire, de travail autour d'accueil en résidence. Il comprend aussi une sorte de, on va dire, quelque chose qu'on a nommé une fois en disant une espèce de pépinière, c'est-à-dire que de se dire que dans notre structure, il y a des gens qui ont envie de développer aussi d'autres choses en lien avec le spectacle. Je pense à Sophie, là, qui travaille avec moi, sur toute la partie scénographie. Donc on a d'abord accueilli en service civique, puis qu'on a réussi à garder dans l'asso, et qui par le développement du projet autour de la scéno, draine pas mal de gens autour d'elle sur des constructions, des choses comme ça. Et l'envie qu'on a aussi sur le travail d'accueil en résidence, c'est des fois de mêler, c'est de faire se rencontrer ces deux pans de notre asso, qui peuvent être séparés, mais qui là ne le sont pas. Et du coup, sur ce projet-là, il y a quelque chose qui moi me fait vraiment plaisir, c'est que du coup Sophie travaille avec eux sur c'est-à-dire qu'elle est impliquée dans le projet pour scénographier aussi les espaces. Donc, moi je suis content de ça. Et
en plus, je pense que nos territoires répondent complètement à ces nouvelles préoccupations, hein, que là, entièrement, ça passe. Quand on voit ce qui se passe sur le Vallon aussi, en nombre de publics, c'est énorme, quoi, plus de 50 000 spectateurs par an. On parle vraiment d'économie et que je pense qu'on oublie souvent que l'art est un vecteur d'économie, avant même celui de l'automobile, hein, c'est 63 milliards d'euros générés en France, et que contrairement à l'automobile, c'est autour de 60-61 milliards d'euros, et qu'on oublie chaque fois que l'art est un vrai vecteur d'économie. En tout cas, encore merci beaucoup à votre association et à ton travail, Sébastien.
Merci à vous.
Allez, merci à tous nos intervenants. Voilà, c'était le 78e MAG de 48FM. On se retrouve bien entendu mardi prochain. Ce MAG sera rediffusé jeudi et samedi. Et on se quitte comme d'habitude avec l'agenda culturel. Salut Nico.
Le Conseil général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 16 au lundi 22 septembre.
Bonjour
Nicolas.
Bonjour Marie. Une belle semaine.
Eh bien oui, on l'espère.
Alors elle démarre avec le mardi 16 septembre à Barjac, à la salle des fêtes. On pourra voir du théâtre. Avec le spectacle de la compagnie de Trois Soleils, Tremblement de Terre, voilà, qui a joué déjà plusieurs fois, notamment à 48e de rue, voilà, à la prison, et puis aussi...
L'année dernière à l'Espace des Anges.
Et l'année dernière aussi à l'Espace des Anges, voilà. La compagnie 1, 2, 3 Soleils, donc, c'est une création théâtrale au milieu des différences. Alors ce n'est pas un tremblement de terre, mais 23 autant de comédiens et musiciens sur scène pour dire, clamer, chercher, trouver et même se perdre au travers de cette idée bizarre que certains d'entre nous seraient différents et que tous les autres seraient identiques. Cette idée de la différence fondamentale pourrait être autant une richesse que représenter une discrimination lorsqu'il s'agit du handicap. Oui, bien sûr, vive la différence. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à l'accepter et à faire avec ? Et donc ce sera le 16 septembre à 20h30, c'est à partir de 8 ans, hein, et tout public. Ce sera 20h30, j'ai déjà tout de suite.
Oui.
Voilà, mais c'est pas grave, je le répète. Et un tarif de 8 euros et un tarif réduit à 5 euros. À la salle des fêtes, donc, de Barjac. Le mercredi 17 septembre, nous aurons la Jeunette Verte à Florac du cinéma avec l'association Cinéco à 21h. C'est assez bien d'être fou. Durant 4 mois, un réalisateur et un dessinateur ont traversé l'Europe jusqu'aux confins de la Sibérie, mêlant dessin et vidéo. Voilà leur périple à deux voies entre road movie et conte documentaire.
Ensuite, pour les journées du patrimoine, alors le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, donc tout d'abord proposé par l'association Route Boy Crew, une randonnée spectacle, donc avec un départ au col de Finiels, avec la compagnie du Dandy Manchot qui a fait une résidence de 3 semaines l'année dernière, donc avec l'association. Voilà, une randonnée de 7 km, il faut être bien équipé avec des chaussures de marche puisque ça va grimper. Et voilà, réservation obligatoire auprès de l'association Route Boy Crew et départ à 14h. Alors, toujours dans le cadre des journées du patrimoine, donc avec les scènes croisées et le pays d'art et d'histoire, une journée au Villard sur la commune de Chanac. Alors avec tout d'abord à 15h30, une visite guidée du site fortifié de Villard et un atelier bulle pour les enfants. Et donc à 17h, le spectacle Still Life par la compagnie Cirque Bang Bang. C'est un spectacle qui se déroule avec un tapis roulant de 7 mètres pour une performance mesurant les corps et l'acte physique à l'espace réel et au mouvement puissant d'une machine et proposant une écriture brute et crue du rapport à l'objet. Puis un duo de jongleurs, hommes et femmes, figure universelle de la relation pour illustrer un drame humain universel. Expérience physique entre marche et jonglage, entre mouvements hypnotiques, effets magiques et mélodrames sensibles, Still Life et aussi le parcours de deux êtres côte à côte face à l'avancée inexorable du temps. Donc le spectacle est à 17h et c'est gratuit, c'est à partir de 6 ans. Alors donc ça sera le samedi 20 et le dimanche 21 à 15h30 pour la visite, 17h pour le spectacle et réservation aussi obligatoire auprès des scènes croisées de Lozère.
Beau programme pour cette journée du patrimoine. Le samedi 20, nous aurons aussi à l'église de Servières de la musique, voilà, promenade musicale au fil du temps. Donc c'est une promenade musicale au fil du temps, Mélodie, Lieder, air d'opéra avec des œuvres de Purcell, Mozart, Rossini, Fauré, Messager, Anne, Brahms. Ce concert fait partie du cycle itinéraire musical en terre de Randon. Donc c'est un projet culturel qui a été initié par le foyer rural de Servières pour la période 2014-2015. Donc c'est une nouveauté. Ce sera 20h30, 10 euros en tout public, 8 euros pour les adhérents du foyer rural de Servières et
gratuit pour les enfants.
Gratuit, voilà, pour les enfants. Voilà, c'est organisé par le foyer rural de Servières. Le samedi 20, nous avons aussi donc à la Girafe Ronde, donc cette association qui, je le rappelle, fait des programmations musicales, voilà, donc avec Sonic Angels. Donc Sonic Angels a débuté en fait en 2005 avec l'intention de perpétuer la tradition des groupes captivants du punk rock, garage psyché des années 60, 70 ou 80, mélodiquement inspiré et sauvage. Issu de la scène rock indépendante, Sonic Angels est un groupe qui a la volonté d'emmener le garage rock vers un rock séduisant, sans se priver pour autant d'arpenter quelques chemins de traverse inspirés de leur musique de voyage. Cela se double d'une faculté à tricoter du solide et du sur-mesure. Ce sera à 21h, proposition très très intéressante, entrée libre aux adhérents et bien sûr organisée à la Girafe Ronde de Marvejols.
Voilà, bonne semaine culturelle à
tous. Bonne semaine culturelle à tous.